L'invité de la rédaction.
L'invité de la rédaction est aujourd'hui Madame Marie-Christine Lemardelet. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors déjà, pour mieux vous connaître, tout de suite votre portrait avec Rudy Saada.
Avant la femme politique, c'est avant tout une universitaire très engagée dans le domaine de l'éducation et de la vie universitaire que nous recevons aujourd'hui. Normalienne, spécialiste de la littérature américaine et accessoirement sœur de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, Marie-Christine Lemardelet a fait une grande partie de ses études outre-Atlantique avant de commencer une carrière d'enseignante agrégée d'anglais au lycée technique Adolphe Chariot de Vitry-sur-Seine. Au début des années 90, elle devient assistante puis professeure à l'université de Sorbonne-Nouvelle. Une université qu'elle arpentera avant d'en devenir une vingtaine d'années plus tard, en 2008, sa présidente. À la fin de son mandat, elle est sollicitée par les équipes d'Anne Hidalgo pour se lancer dans la course des municipales en 2014, en candidate de la société civile soutenue par la liste Union de la gauche, donc dans ce 5e arrondissement. Avec 48,7% des voix, elle manque de peu, 593 voix très exactement, de faire basculer l'arrondissement à gauche, mais c'est bien donc Florence Berthoux, la candidate de droite, qui sera réélue. Cette expérience l'a fait entrer de plein pied dans l'équipe Hidalgo. Élue au Conseil de Paris, elle devient adjointe à la maire de Paris, chargée de l'enseignement supérieur. Parmi les mesures phares de son programme pour le 5e, la fermeture de rues aux abords des écoles, le passage à 20 km/h dans certaines rues, un 5e 100% cyclable, un réaménagement des bords de Seine, 25% de logements sociaux pour toute nouvelle construction privée, la lutte contre les locations Airbnb, la création d'espaces d'échange destinés aux étudiants et mesure symbolique, la création d'une place des grandes femmes devant le Panthéon. Voilà pour les mesures. Bref, un programme très raccord avec celui d'Anne Hidalgo qui sera donc soumis au vote des 36 000 électeurs de l'arrondissement ce dimanche.
Alors voilà, un portrait qui vous convient ?
Tout à fait.
On est bon.
On est bon, vous êtes bon.
Alors, moi j'ai une première question à vous poser et puis alors on va échanger entre Laurence Goldman et Rudy Saada. Vous êtes apparentée socialiste, pourquoi est-ce que vous n'intégrez pas le parti ?
J'ai été choisie par Anne Hidalgo comme membre de la société civile et je tiens à rester en dehors des partis. C'est-à-dire qu'au Conseil de Paris, c'est très clair, je siège au sein du groupe socialiste et apparenté. Donc je suis une femme de gauche. Mais je ne souhaite pas, peut-être du fait de mon profil universitaire un peu universel, humaniste, je ne souhaite pas entrer dans un parti politique au sens plein du terme.
Alors, je rebondis juste sur ce que vous venez de dire avant de laisser la parole à mes camarades. Qu'est-ce que vous pensez justement de la société civile qui a fait une entrée fracassante aujourd'hui dans la politique et qui d'ailleurs n'a pas toujours fait ses preuves parce que c'est un métier, la politique, et vous êtes maintenant bien placé pour le savoir.
Absolument. Je pense qu'il faut effectivement un goût, un engagement déjà dans des valeurs, mais que la politique, en effet, ça s'apprend. Et c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans comme adjointe à la maire de Paris, aux côtés d'Anne Hidalgo, au Conseil de Paris, vous l'avez cité. Et j'ai appris l'art de la discussion, l'art du compromis parfois, sans jamais renier mes valeurs. Et je pense que c'est très bien que la société civile entre en politique, mais il faut accompagner les gens qui font cet effort-là.
Laurence ?
Oui, je voudrais, Marie-Christine Lemardelet, faire le lien entre l'actualité de ces derniers jours et ces manifestations contre le racisme et les violences policières et votre proposition à Paris en commun d'instaurer une police municipale qui ne serait pas armée. D'abord, expliquez-nous pourquoi ce choix. Elle n'aurait pas armée, ça veut dire pas d'armes létales, pas d'armes qui tuent, mais néanmoins des bombes lacrymogènes et des matraques en fait.
L'idée d'une police municipale non armée, c'est l'idée de rendre la paix dans les quartiers les plus difficiles. Et le fait de ne pas armer, c'est une façon de dire qu'on ne confond pas le rôle d'agents présents sur le terrain qui sont là pour rassurer, pour rendre service, pour aider. Notamment, par exemple, on a le projet de féminiser la fonction, pour permettre aux femmes, par exemple le soir, de se sentir à l'aise dans l'espace public. Mais ça ne signifie pas se substituer à la police d'État, qui, elle, peut intervenir. Mais évidemment, les policiers municipaux pourront appeler la police nationale en cas d'urgence, en cas de difficulté particulière.
Alors, c'est bon pour une politique globale, mais le 5e n'est pas franchement concerné. On ne peut pas dire que ce soit des quartiers d'une immense violence.
Non, il n'y a pas de violence en tant que telle, mais il peut y avoir des problèmes d'usage de l'espace public, des conflits d'usage, par exemple, entre les quartiers très festifs où les gens aiment bien se retrouver à la terrasse d'un restaurant, surtout en ce moment après le confinement, et les personnes qui habitent au-dessus et qui se plaignent du bruit. Donc ça peut très vite mal tourner, ça peut très vite devenir assez violent. Et en ce moment, les commerçants que je croise, par exemple rue Mouffetard ou place de la Contrescarpe, sont très heureux de la mesure qu'a prise Anne Hidalgo d'ouvrir la possibilité d'agrandir les terrasses gratuitement. Mais tout de suite, on trouve des riverains qui viennent me voir en même temps pour dire comment fait-on pour faire cesser le bruit. Donc voilà, c'est ce genre de conflit d'usage, parce qu'à Paris, les appartements sont souvent petits et les gens de plus en plus s'approprient l'espace public.
Alors moi, je vais être méchante et après, je vais laisser mes petits camarades qui sont, eux, beaucoup plus gentils. En fait, quand on agrandit les terrasses, c'est sûr que ça fait plaisir à tout le monde, sauf aux automobilistes. Est-ce que ce n'est pas une façon, finalement, de réduire l'espace voiture et d'empêcher les voitures de circuler? Parce que l'objectif, même si ça n'est pas dit ouvertement, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ça n'est pas dit ouvertement, c'est de supprimer les voitures de Paris.
Le plan pour les terrasses n'est pas strictement destiné à cet objectif.
Moi, j'adore le strictement.
C'est vrai que ça peut avoir un effet secondaire tout à fait positif de notre point de vue, c'est-à-dire qu'on remplace des places de parking par des terrasses. Bien sûr, mais c'est plus ou moins dit quand même. Et le but d'Anne Hidalgo, ce n'est pas de supprimer les voitures de Paris, pas du tout, ça il faut vraiment le dire clairement, mais de faire réduire les déplacements en voiture qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, les artisans doivent pouvoir circuler, par exemple, rue de Rivoli, bon, ce n'est pas dans le 5e, mais c'est un exemple assez frappant dont on parle souvent. Ils doivent pouvoir, les taxis doivent pouvoir circulent, les ambulances, enfin toutes sortes de
déplacements. Là, ils peuvent.
De déplacements. Bah, oui.
Là, ils peuvent. Là, oui. Ça n'est que pour eux. Donc, ils peuvent. Oui. Laurence.
Oui, vous voulez un 100% vélo dans le 5e arrondissement et plus globalement, sur Paris. De quelle manière allez-vous encourager les Parisiens à lâcher leur voiture pour faire du vélo? Est-ce que, par exemple, cette mesure qui a été mise en place par le gouvernement après, juste au début du déconfinement, une prime de 50 euros pour toutes les personnes qui voudraient faire réparer dans leur vélo, c'est une mesure qui va dans le bon sens?
Alors, il y a une mesure qui a été prise par la mairie de Paris pendant le confinement, enfin pour le déconfinement, c'est de créer ce qu'on a appelé ironiquement des coronapistes, c'est-à-dire des pistes cyclables protégées, mais de manière provisoire pour tenter une expérience, mais surtout pour délester les transports en commun qui devenaient dangereux aux yeux de la population. Et ça, c'est une manière très concrète de rendre possible les déplacements à vélo de manière sécurisée. Et d'ailleurs, beaucoup de Parisiens qui ne faisaient pas de vélo avant sont allés travailler en vélo et en sont très heureux. Donc ça, c'est une manière très simple et ça intervient bien sûr dans le 5e arrondissement, rue Saint-Jacques et boulevard Saint-Michel, qui sont, si vous voulez, les deux voies en sens contraire qui délestent la ligne 4 qui est très très saturée.
Alors, je me suis un petit peu penché sur le côté tourisme du 5e, parce que c'est un arrondissement qui est extrêmement touristique. Vous voulez, par exemple, supprimer les emplacements de stationnement pour les autocars dans ce but, finalement, de faire respirer l'arrondissement. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, quelque part, que cela porte un coup fatal à l'industrie du tourisme? Parce qu'on sait à quel point c'est important, surtout après le coronavirus.
Alors, Il s'agit de développer un tourisme plus humain, à taille plus humaine, notamment dans le 5e et pas seulement. Et l'idée de base, c'est de mettre les cars de tourisme aux abords de la ville et d'encourager les offices de tourisme ou même les hôtels à utiliser des moyens plus petits, propres, par exemple des navettes électriques, pour amener des groupes de taille assez réduite au centre de Paris. Et dans le 5e, il y a vraiment la possibilité de faire un tourisme culturel très intéressant à beaucoup plus grande échelle avec tous les artistes, les chercheurs, les scientifiques qui ont vécu dans le 5e arrondissement, d'ouvrir aussi beaucoup plus les lieux de connaissance et de création du savoir. Et donc non, c'est pas du tout contradictoire, je ne crains pas du tout qu'il y ait une une baisse du tourisme. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui habitent à Chicago et qui viennent pratiquement tous les ans dans le 5e. Et ils se délectent de ne pas avoir, de ne pas être obligés de prendre une voiture.
Alors, justement, où logent-ils ces amis ? Puisque les locations Airbnb sont pour vous un problème, puisque cela enlève quelque part de la possibilité de location dans le quartier, mais cela amène aussi des touristes. Comment réussir à faire cet équilibre ? Et pourquoi vraiment, dans votre programme, vouloir lutter contre ces locations Airbnb ?
Alors c'est très simple, lutter contre ces locations saisonnières, c'est pour remettre en circulation des appartements qui sont retirés aux Parisiens. L'autre jour, j'étais rue de la Sorbonne et j'ai rendu visite à un hôtel 2 étoiles qui venait de rouvrir. Il y a pas mal d'hôtels pas très chers, pas très onéreux, qui peuvent attirer justement une clientèle qui n'est pas très fortunée. Il ne s'agit pas d'hôtels de luxe. Et la personne qui tenait l'hôtel m'a dit « on attend que les musées rouvrent ». Parce que c'est ce genre de clientèle-là qui vient dans le 5e, typiquement. Et donc, dès que la vie culturelle aura repris, et là, Christophe Girard, l'adjoint culture de la maire de Paris, a décidé de faire un été de la culture. Il a appelé ça très joliment l'été retrouvé, du 15 juillet au 15 septembre. Ben voilà, ce sera une façon d'animer la ville de Paris pour tous ceux qui ne peuvent pas partir, par exemple. Et aussi pour les touristes.
Un mot en ce qui concerne votre programme social, parce que c'est un programme qui est extrêmement social. Quand on le lit attentivement, épicerie solidaire, lieu d'hébergement des familles en situation de rue et de femmes qui sont victimes de violences, 25% de logements sociaux, c'est compatible avec le 5e arrondissement ?
Oui, alors je vais peut-être vous étonner, mais le 5e arrondissement n'est pas aussi aisé qu'on le dit. Par exemple, j'ai un indicateur qui me paraît important. C'est le nombre de personnes qui bénéficient des tarifs les plus bas à la cantine scolaire. Par exemple, 25% des enfants bénéficient des tarifs de 1 à 3. Et 40% des tarifs de 4 à 7. C'est-à-dire, quand je dis tarifs de 1 à 3, ça veut dire de 13 centimes à 1,62 €. Donc des tarifs très bas. Il y a quand même 25% des enfants dans le 5e qui en bénéficient. Donc le 5e n'est pas un arrondissement extrêmement riche. Même si, oui, il y a un niveau de vie élevé par rapport à d'autres arrondissements de Paris. Et j'ai vu, j'en veux pour preuve, les files d'attente devant les distributions d'aide alimentaire pendant le confinement. J'y ai vu des personnes, des familles, des étudiants qui avaient vraiment besoin d'aide alimentaire, d'aide de première nécessité.
Alors, Rudy, Laurence.
Je suis obligé de revenir sur la petite polémique du moment. La candidate Florence Berthoud de la liste d'Union de la droite vous accuse d'avoir annulé une participation à un débat de l'entre-deux-tours sur la chaîne France 3. Est-ce que cela est vrai ? Et pourquoi, si cela est vrai, ne pas vouloir débattre ?
Je ne sais pas que je n'ai pas voulu débattre, mais j'ai trouvé la méthode un peu provocatrice de sa part. François m'avait vaguement contacté, on m'a jamais parlé de la date précise, et je sais que au niveau de Paris, il n'y avait pas du tout de débat prévu pour les arrondissements. Tous les mois, j'ai débattu avec elle en public au conseil d'arrondissement. Je voyais pas vraiment l'intérêt de faire ce genre de débat un peu provocateur.
Laurence.
Oui, moi j'ai une question qui concerne le coronavirus, puisque l'épidémie, même si elle a beaucoup diminué, est encore présente. Il y a une deuxième école qui vient de fermer aujourd'hui, ce matin, à Paris, dans le 4e arrondissement. Hier, c'était dans le 12e. Vous qui êtes une élue de Paris, comment vous appréciez la situation et comment vous suivez au jour le jour ce qui se passe dans les écoles de votre arrondissement ?
Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase de confinement où nous avions une cellule de crise tous les jours, c'est-à-dire tout l'exécutif dont je fais partie et les maires d'arrondissement se réunissaient. Donc on était au plus près des réactions, des solutions à apporter. Et là, c'est la même chose, mais maintenant, il y a une cellule de crise toutes les semaines. Et donc, le moyen le plus sûr, c'est que nous avons des représentants de la maire de Paris dans tous les conseils des écoles. J'ai des contacts aussi, je visite beaucoup les directeurs et les directrices d'écoles. Et donc, on peut saisir très rapidement aussi par les parents, les interpellations des parents, la situation dans les écoles. Donc, Moi, je ne serais pas trop inquiète quand même. Je sais qu'il faut faire attention et il faut prendre les mesures. Là, je le dis quand même solennellement parce que je vois encore beaucoup de gens qui ne mettent pas de masque, qui ne respectent pas les gestes barrières. Mais je ne serais pas trop inquiète parce que maintenant, la façon d'isoler, par exemple, par Covisan, cette façon de détecter par les tests massifs, puis d'isoler des personnes qui sont contaminées, permet à la ville de Paris d'arrêter tout de suite la possibilité d'un cluster.
Une campagne électorale masquée, c'est pas évident. Enfin, ça a été une première, on n'avait jamais vu ça encore.
Mondiale.
Mais c'est vrai que ça ne doit pas être évident.
Alors, la grande surprise pour moi, c'est que les gens me reconnaissent malgré mon masque. Déjà, je trouve ça agréable. Moi, je les reconnais aussi. Et les yeux deviennent tout. Les yeux, on sourit avec les yeux, on se parle avec les yeux, on parle aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui vous disent « je ne vous entends pas à cause du masque ». Donc, il faut parler plus fort, il faut être peut-être plus expressif, mais il faut faire attention de ne pas s'approcher trop non plus. Donc, en effet, c'est un peu surréaliste.
Laurence ?
Vous avez des inquiétudes quant au taux de participation dans votre arrondissement dimanche pour ce deuxième tour des municipales, compte tenu de la situation sanitaire ?
Alors, il y a deux aspects. Il y a le fait qu'effectivement, il y a des familles qui ne sont pas rentrées de confinement. On le sent, on voit que l'arrondissement n'est pas très peuplé en ce moment. Déjà, il n'y a pas d'étudiants, donc ça se voit. C'est vraiment un arrondissement très étudiant. Et il y a un autre aspect qui est plus annexe, qui est le fait que les sondages donnent Anne Hidalgo gagnante. Et donc, il ne faudrait pas que les personnes qui veulent voter pour Anne Hidalgo, c'est-à-dire pour ma liste, se disent « Oh, c'est fait, ce n'est pas la peine d'y aller ». Je leur dis « Si, si, déplacez-vous, toutes les voix vont compter ».
Alors moi, je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler de la place des grandes femmes, parce qu'on connaît aux grands hommes la patrie reconnaissante, mais alors la place du Panthéon qui s'appellerait la place des grandes femmes, ça y est, vous êtes féministe et vous le dites.
Oui, alors il y a déjà, ça c'est la suite d'un projet qui a déjà commencé sur la place du Panthéon, qui, de grand parking à ciel ouvert, est devenu une place où on peut échanger, se rencontrer grâce à des bancs et des tables. Ça, c'était un projet de la précédente mandature qui a été accompli. Et en même temps, il y avait un projet culturel, c'était d'inscrire les noms de femmes connues ou pas connues du tout. C'est ce que nous avons fait. Nous avons déjà commencé avec le collectif Les Monumentales. Un projet, alors il y avait un conseil scientifique, on a choisi les noms, etc. Donc ça, c'est déjà le début de cette...
Vous nous en donnez quelques-uns ?
Oui, bien sûr. Edith Wharton...
Ça, c'est l'angliciste qui parle. Alors, Edith Wharton, en première...
Elle a vécu à Paris, Edith Wharton, dans le 5e, d'accord.
Non, pas forcément dans le 5e. Mais... Non, et ce n'est pas forcément des Parisiens non plus, des Parisiennes.
D'accord. Et qui d'autre, par exemple ?
Jeanne d'Arc, Edith Lamarre, qui était une grande physicienne, on ne sait pas.
Non, on ne la connaît pas. Donc, vous allez mettre au goût du jour toutes ces femmes qui ont œuvré pour le monde et qui sont peut-être méconnues.
Et alors, l'autre aspect, c'est que la place des grandes femmes aussi, ça va de pair avec le fait qu'on veut créer un îlot de fraîcheur, parce que le Panthéon, la place du Panthéon et la rue Soufflot sont des îlots de chaleur très intenses pendant l'été. Et la dernière fois, les architectes n'avaient pas voulu, des bâtiments de France n'avaient pas voulu qu'on plante en pleine terre. Et là, ils ont vu que les pots que nous avons mis ne détruisent pas la perspective, donc on va pouvoir planter des arbres en pleine terre et on donnera des noms de femmes à ces arbres.
Bah écoutez, on va rester sur cette note à la fois fleurie et féminine. Merci infiniment Marie-Christine Lemardelet de votre présence.